Moi, Samuel de Champlain, plante ici la Sainte Croix chrétienne pour prendre possession de ces terres au nom du roi de France.
Comment nommerez-vous ce pays?
Je suis plutôt à court d'imagination. Demandons à ces sauvages pouilleux.
Og, grand chef blanc.
Og, grand plumeau, j'ai besoin d'un nom pour tes terres dont je prends possession.
Territoire s'appelait là où défèquent grands oiseaux.
Ouais, mais justement, on aimerait quelque chose qui sonne mieux pour le roi. Voyez-vous, il faudrait que ça puisse l'impressionner, histoire de lui en mettre plein la vue.
Pourquoi pas là où plein de neige?
Quelque chose de plus exotique.
Là où homme danse tout nu?
Ok, faut pas charrier là.
Bah, je sais pas moi. Là où fleuve rétrécit?
Et comment ça sonne en Micmac?
Québec.
Québec, ce sera parfait. Ok, vous avez noté, on s'en va.
Grand plumeau, pourquoi avoir menti à homme blanc déplumé?
Haha, plaisanterie. Pour l'instant, seul peau rouge sait ce que veut dire. Dans 400 ans, ils sauront pas encore.
C'est quand même fort, quand ils vont se rendre compte que Québec veut dire là où l'homme blanc a planté grand poteau à linge.
En sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah!
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Et oui, Scotty, il nous faut absolument la puissance maximale et c'est ce qu'il va nous falloir aujourd'hui, puisque aujourd'hui, évidemment, comme tous les lundis à 17h sur les ondes de CKIA, le 88.3, c'est l'émission Puissance Maximale. Au micro, Sébastien Léonard. Puis aujourd'hui, on a tout un programme à vous proposer, puisqu'on va aller rejoindre Nicole Grandmont, orthopédagogue, qui va nous parler eh bien, de la valeur pédagogique des jeux un petit peu plus tard en direct de Montréal. On va avoir évidemment Sylvie Tapp qui nous présentera le jeu Ninja Panda de Binox, tout nouvellement sorti sur PC. On va aussi rejoindre les ateliers du loisir, camp de vacances, un camp de vacances tout à fait particulier puisqu'il s'agit d'un camp de vacances axé sur les grandeurs nature. Donc imaginez un peu ce que ça peut donner pour vos petits bambins. Et enfin, évidemment, comme à chaque mois quasiment, eh bien, nous allons retrouver Fraulein Hevel, notre Chantal Capogna, celle qui connaît tout sur les jeux de plateau et qui sera capable de vous en parler. Mais avant cela, évidemment, en début d'émission, eh bien, on va parler avec celui que nous attendions tous. Il s'agit de Vincent Langlois. The Eye of Judgment. Lui-même. On se croirait dans un match de catch. C'est vraiment assez impressionnant. The Eye of Judgment.
Rah, all right. C'est moi, j'arrive.
Bonjour Vincent. En fait, aujourd'hui, tu nous parles d'un jeu qui s'appelle Alone in Dark sur la Wii.
Le fameux Alone in the Dark, vous connaissez sûrement tous.
Le parce grand classique.
Oui, en 1992, c'était sorti sur PC et c'était un peu le pionnier de ce qu'on appelait les survival horror, ou en fait, les jeux d'horreur et de survie qui ont suivi par suite les Resident Evil et ces choses-là.
Et c'était inspiré un peu de l'univers de Lovecraft, donc les fans s'y retrouvaient.
Tout à fait. Et en fin de compte, Il y a une version qui est sortie dernièrement, une version qui est sortie sur la Xbox 360 et sur la Wii, et ça s'en vient sur la PS3 également, sur la PS2 même.
C'est quand même bizarre que la Wii présente ce genre de jeu. C'est assez rare de voir un jeu très axé sur le
violon ou sur le trait noir. Avec Nintendo, c'est vrai que c'est rare, mais malgré qu'avec la GameCube, Nintendo s'était avancé avec Resident Evil 4. Il y avait l'exclusivité. De la part de Capcom dans le temps. Et ouais, on retrouve en fin de compte Alone in the Dark avec la Wii, bien sûr, qui est en fin de compte, comme on disait, multiplateforme. On peut l'avoir sur les différentes consoles. Sauf que moi, j'ai priorisé l'essai sur la Wii parce que je voulais voir. Atari disait qu'il allait y avoir des contrôles assez extraordinaires, qu'elle allait faire quelque chose de bien avec les contrôles de la Wiimote et le Nunchuck. Donc,
ça veut dire qu'on pouvait planter son pieu virtuel directement grâce à la Nunchuck.
Presque. En fin de compte, c'est ça. On pouvait utiliser les différents objets avec la Wiimote et le Nunchuck pour défaire l'environnement.
Et est-ce que la réalité est à la hauteur?
Tu veux dire au niveau de la jouabilité,
oui,
comme ça?
Oui.
C'est assez... en fin de compte, le jeu en général, c'est assez raté.
Bon, d'accord.
Là, l'avouer, là, en fin de compte, si on y va, en général, avec le jeu et l'histoire, bon, on incarne un homme amnésique là, qui cherche à retrouver son identité dans New York. Et l'homme ressemble étrangement à notre fameux héros de Alone in the Dark qu'on avait par le passé, là, grand, les cheveux longs et tout ça. Et bon... Il sait qu'il est en captivité, qu'il était en captivité parce qu'il a réalisé, il y a des gens qui étaient autour de lui, il a réussi à se sauver. Et au moment où il se sauve, ben, tout s'écroule autour de lui dans la ville de New York. Et il y a des monstres qui sortent, des zombies, des choses comme ça. Il doit s'évader. Donc, il doit trouver où qui il est, comment s'en sortir. Et le jeu, en tout cas, a été fait, quelque chose que j'ai trouvé bien, en fin de compte, c'est que c'est fait comme un épisode de télésérie américaine. Il y a 10 épisodes dans le jeu.
Okay.
Et à chaque fois qu'on revient dans le jeu, on nous met ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a joué en petite série, en fin de compte.
Previously.
En plein ça, c'est ça, ce qui s'est passé au dernier épisode. Et quand on quitte le jeu, il peut même y avoir parfois des scènes de ce qui va s'en venir, des choses comme ça. Je trouvais que c'était intéressant la manière que ça avait été fait. Mais au niveau de la Wii... On peut pas s'attendre à grand chose. La Wii, c'est la console la moins performante avec la Xbox 360 et la PS3. Donc, graphiquement, on nous présente du 480i. Bon, je suis pas un expert en haute définition ou quoi que ce soit, mais je sais que la haute définition, ça commence à 720p.
Oui, mais il manque quasiment rien.
Et presque rien, c'est sûr. Fait que moi, en fin de compte, quand j'ai mis le jeu, en fin de compte, sur la Wii, ma Wii est branchée sur mon écran haute définition, j'étais horrifié.
Okay,
je ne voyais rien
pixels,
du tout, c'était laid, ça n'avait pas de sens, et j'ai même transféré ma Wii sur un vieux téléviseur 24 pouces ordinaire pour jouer, en fait non, pour tester juste le téléviseur. Ça avait de l'air un peu mieux, mais on voyait quand même déjà là beaucoup de failles, et j'ai été un peu déçu de ça, parce qu'en fin de compte, avec justement Resident Evil 4 qui était sur la GameCube, on était quand même sorti avec des graphiques assez intéressants, puis il y a beaucoup d'éditeurs et de producteurs de jeux qui sortent sur la Wii, des jeux qui sont quand même intéressants au niveau des couleurs, puis au niveau du graphique, au niveau de la fluidité.
Mais
c'est pas le cas avec ce jeu-là.
Peut-être parce qu'on demandait un peu trop à la machine. C'est-à-dire quand tu vas chercher beaucoup de résolution ou de facteurs, de critères au niveau des graphiques, ben c'est sûr que probablement que c'est au-delà de ce que la machine
en
est capable
de faire. En plein ça. Puis j'ai l'impression sûrement quand ça va sortir. En tout cas, j'ai pas eu le temps de tester ce qu'il y avait sur la Xbox 360, mais sur la PS3, quand ça va sortir, qui est présentement la plus performante, j'imagine que ça va être mieux. En fin de compte, au niveau des effets visuels. Très, très horrible, disons, là, ça n'avait pas de sens. Le jeu est mal défini, c'est justement la définition de l'environnement, la définition... En fin de compte, la définition du personnage, des objets que tu as, te permet ou te permet pas justement de jouer. À un moment donné, je suis tombé dans un trou, j'ai une table à déplacer, je sais que je dois la déplacer parce qu'en fin de compte, tout ce que tu peux faire avec les objets, on voit apparaître le bouton A ou le bouton 1, en fin de compte, avec le Nunchuck, qui nous indique à chaque fois ce qu'on doit faire. Et j'avais une table à déplacer pour pouvoir remonter, en fin de compte, d'où j'étais tombé. Et je plaçais la table un peu partout, je montais sur la table et j'étais incapable de monter ou de remonter à un endroit, quoi que ce soit.
Oui.
Donc, c'était très mal défini au niveau graphique. Donc, c'était difficile pour moi de savoir à quel endroit remonter. Des petites affaires comme ça, en fin de compte, au niveau même de l'ambiance, au niveau du son, on a essayé de mettre une ambiance terrifiante. Il y a quand même des bons bouts de musique où c'est que c'est assez, peut-être épeurant. Sauf que il y a aussi beaucoup de bugs sonores. À un moment donné, justement, la fameuse chose avec la table, j'étais en train de déplacer la table, j'entends rien. Donc, j'arrête le jeu, je recommence le lendemain, je suis rendu à la même place, je recommence à déplacer la table. Et là, la table a fait du bruit quand je la déplace. Mmh. Donc, c'est assez, assez spécial. Même à un moment donné, je n'avais pas entendu qu'il y avait quelqu'un derrière moi quand j'ai repris le jeu. La personne s'est mise à crier. En tout cas, c'est vraiment des choses comme ça qui sont.
Mais dis-moi, Vincent, est-ce que ça a un intérêt quelconque, ce jeu? Est-ce que c'est quand même un jeu qui mériterait d'être acheté ou même d'être essayé? Ou est-ce que tu vas le déconseiller complètement?
Moi, je
pour
le
la
déconseille.
Première fois,
je
ça
le
serait
déconseille
ta première négative.
Oui, sur la Wii, mais déconseille. Peut-être sur une autre console ou PC. Que ça serait un jeu qui serait quand même intéressant à jouer.
Malheureusement, je n'ai pas pu l'essayer sur les c'est autres ça. Consoles, mais sur la Wii, pour les propriétaires de Wii, je le déconseille, c'est certain. Alors, louez-le ou essayez-le comme ça, mais c'est décevant pour les fans de Alone in the Dark qui ont la Wii. Et c'est ça, déconseillé complètement.
Ou alors, si vous avez une Wii que vous voulez jouer absolument à Alone in the Dark, sortez vos très vieux téléviseurs, puis ça peut peut-être faire la job encore et encore. C'est pas sûr.
En noir et blanc.
S'entend là-dessus. Puis c'est vrai, oui, ça soit en noir et blanc, exactement. Ça serait préférable avec un. En fait, pas de son. Pas de son, et puis en noir et blanc, et puis ça devrait peut-être être bien.
Tout à fait.
Et merci beaucoup, Vincent, pour plaisir. Cette critique négative, pour une fois. Tu l'as mis combien?
Parce que j'ai donné un 2 sur 10, mais je me suis vraiment demandé comment faire pour donner des points, parce que je ne trouvais pas de points à donner au niveau du sonore, au niveau graphique, tout ça. Fait qu'en fin de compte, j'ai regardé en fin de compte, je me suis dit, il y a deux éléments qui ont retenu mon attention. Le fait qu'on ait fait une petite série télévisée avec ça, j'ai dit bon, ok, mais en fin de compte, je me suis vraiment, j'ai vraiment pris le large en comparé à ce que je fais d'habitude avec mes grilles d'évaluation. J'ai donné un point pour ça, et bon, quand même pour ce qu'on a essayé de faire avec la Wiimote puis le Nunchuck, là, de dire...
En fait, t'as donné un point pour l'effort.
J'ai donné un point, en fin de compte, deux points pour l'effort.
On se croirait aux Jeux Olympiques. Merci d'avoir participé. C'est vraiment sympathique, c'est parfait. Et merci Vincent, tu restes avec nous évidemment pour le reste de l'émission, j'espère.
Oui.
Puis justement, en parlant de reste de l'émission, normalement, on devrait aller rejoindre immédiatement à Montréal une orthopédagogue qui s'intéresse principalement aux jeux. Elle est aussi chargée de cours à l'UQAM. Elle s'appelle Nicole Grandmont. Bonjour Nicole. Allô?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir à l'émission Puissance Maximale.
Avant, on va mettre le thème.
Moi aussi.
Ici votre Seigneur des Ténèbres et vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale.
Et voilà.
Et on revient avec toi, Nicole. Donc, bonjour tout d'abord. Et puis, je sais que toi, tu t'intéresses principalement au jeu, mais à travers la pédagogie, c'est-à-dire que tu utilises le jeu comme un moyen de faire apprendre aux jeunes des choses. Est-ce que c'est ça exactement?
Oui, en principe. Alors, pour moi, le jeu, dans l'apprentissage, c'est une forme de pédagogie qu'on appelle la pédagogie ludique.
Donc, en fait, finalement, tu utilises tout simplement le jeu comme un moyen, comme un autre, finalement, d'apprentissage, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est un jeu comme un autre, mais ce n'est pas le jeu qui va régler tous les problèmes, par exemple.
Non, en fait, tu vas justement t'intéresser principalement à essayer d'axer l'utilisation du jeu par rapport aux problèmes ou problématiques qui sont reliées à chacun des jeunes?
Tout à fait. Et ce n'est pas nécessairement des jeunes qui sont en difficulté d'apprentissage. Il faut aussi bien le préciser. Ah.
Donc, ça peut être utilisé absolument pour n'importe quel jeune, mais c'est quand même, à l'heure actuelle, peut-être plus utilisé pour des jeunes qui auraient quelques petits problèmes.
Ben, ça peut arriver. Hein? En cours de route, on en a tous des problèmes pour apprendre, c'est sûr et certain, même les adultes aussi. Donc, le jeu, c'est un moyen détourné de briser les appréhensions, si tu veux.
OK. Et j'imagine que ça doit être essentiellement des jeux sérieux là, qu'on appelle...
Oh non, surtout pas des jeux sérieux. C'est ça le problème. Pour qu'il y ait un bon apprentissage avec un jeu et que l'enfant ne soit pas à se dire « pas encore des bebelles », il faut que tu saches ce que tu fais avec un jeu. Et c'est pour ça que je dis que d'utiliser le jeu dans les classes, il faut que ce soit dans le cadre de ce que j'appelle la pédagogie ludique, c'est-à-dire penser, réfléchir et savoir pourquoi. Et il ne faut pas que le jeu soit, qu'il ne faut pas que le jeu perde son essence, mais il ne faut pas que le jeu remplace l'apprentissage.
Mais d'un point de vue, je dirais, réel, ça ressemble à quoi un jeu qu'on peut utiliser en classe qui ne va pas justement tanner les jeunes?
Bien, souvent, c'est imprévu. C'est là que le jeu est le meilleur. Par exemple, un enfant ne sait pas ce que c'est que de mettre quelque chose en dessous. Je prends un exemple excessivement simple, là, mais c'est juste pour que visuellement nos auditeurs nous comprennent. Il ne comprend pas de mettre une feuille en dessous d'une autre. Ça ne sert à rien que tu lui dises 100 000 fois. Alors, ce que tu fais, c'est que tu demandes à tout le monde, est-ce qu'on peut être en dessous de quelque chose? Et puis, monde se déplace, puis il y en a qui vont en dessous de la chaise, en dessous du banc, en dessous du petit, partout. Ça, c'est le meilleur jeu au monde. C'est là que l'enfant dit « Ah, là, j'ai compris ce que c'est que « en dessous ». Tu sais? C'est un exemple excessivement simple. Non, pour que le jeu soit un jeu, il faut le garder de la façon ludique. Il faut que ça émerveille.
Dis-moi, est-ce que c'est employé à l'heure actuelle par les professeurs, par les maîtresses d'école?
Oui, on l'enseigne à l'UQAM au niveau du bac en préscolaire élémentaire. Et évidemment, comme tu peux penser, hein, les étudiants qui suivent mes cours sont des étudiants qui sont pris comme un peu des cobayes parce que j'applique carrément ma pédagogie du jeu. Alors, ça les déstabilise. Par exemple... certains vont me dire, madame, est-ce qu'on fait un travail avec 30 pages, 15 pages, 100 pages? Et puis, le travail, c'est non. Le travail, c'est une création que tu dois faire. Et là, est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle n'est pas sérieuse? Parce que on est très structuré à dire que si on apprend, il faut que ça soit quelque chose d'observable, mesurable, quantifiable. Donc, observable, j'écris un document, je le cote. Donc, je donne à l'étudiant une note. Si tu enlèves cette structure de l'apprentissage, souvent, ça déstabilise. C'est pour ça que la pédagogie du jeu ne peut pas s'appliquer par n'importe qui. Ça prend des enseignants qui sont capables de jouer avec l'imprévu.
Tout à fait. Est-ce que ça serait plus axé, par exemple, sur de l'apprentissage de la créativité de l'enfant? Parce que j'imagine que c'est un petit peu plus difficile d'apprendre, l'histoire par cœur en les faisant s'amuser.
Non. Tu vois, c'est justement ça que faut comprendre. Le jeu, c'est pas une panacée à tous les remèdes. Okay? C'est pas la pilule magique. Il y a des choses dans l'apprentissage que tu peux pas faire autrement. Apprendre tes tables de mathématiques, il faut que tu les apprennes. Okay? C'est le seul moyen raccourci pour aller vite en multiplication. On n'a pas le choix. Donc, il faut que l'enseignant comprenne qu'il y a des substances dans l'apprentissage qu'on ne peut pas délaver. Par contre, les notions et les concepts, c'est différent. C'est là que le jeu peut faire travailler l'enfant ou la personne, parce que c'est pas juste l'enfant, l'adolescent, l'adulte, va travailler dans un état où sans s'en rendre compte, il découvre la notion et le concept. Et c'est après que le pédagogue ajoutera des mots pour rendre la chose plus, au niveau de l'apprentissage, la conceptualisation des mots et des formulations.
Merci beaucoup, Nicole Grandmont, pour ces explications. Puis on ira sûrement venir vous rejoindre un petit peu plus tard sur Internet pour en rediscuter. D'ici là, je vous conseille tous nos auditeurs d'aller tout simplement sur notre site Internet www.puissancemaximale. Vous allez avoir le lien qui va vous mener tout droit à son site et puis peut-être en apprendre un petit peu plus sur la pédagogie et le jeu. Donc on venait juste de parler avec Nicole de Grandmont, orthopédagogue chargée de cours à l'UQAM, que nous remercions encore. Et puis là, évidemment, maintenant, on s'en va directement droit au but, c'est-à-dire vers le Ninja Panda.
Yeah, yeah. Je suis Patrice Desilets, directeur créatif d'Assassin's Creed, et vous écoutez Puissance Maximale.
Évidemment, pour ceux qui ont eu l'opportunité de voir le film, sûrement que vous êtes sorti comme moi extrêmement, charmé par le film. Juste pour revenir un petit peu au contexte, Ninja Panda, c'est un dessin animé, c'est-à-dire un animé avec un panda qui est joué par Jack Black dans la version originale. Jack Black qui est le petit gros qui joue tous les rôles absolument hilarants qu'il est capable de faire au cinéma. Et là, il joue le rôle d'un gros panda qui écrase tout le monde avec son gros derrière. C'est très drôle. Et évidemment, comme à chaque fois qu'on fait un film pour enfants qui fonctionne suffisamment bien, on a le droit à avoir la version en jeu. Et puis, évidemment, qui est-ce qu'on invite pour faire les tests? Parce que je sais qu'elle adore ça, c'est-à-dire Sylvie Tapp. Évidemment, bonjour Sylvie, ça va bien?
Oui, ça va très bien, pas mal.
Oui, donc tu as essayé ce jeu qui s'appelle Ninja Panda, sorti sur PC par Binox, notre fameuse compagnie de Québec, celle que nous aimons tant. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-nous exactement ce qui s'est passé avec ce jeu.
D'abord, le jeu basé, évidemment, comme tu le disais, sur le film, que, évidemment, je n'ai pas vu.
Donc, tu peux en parler avec tout à fait tout
pas
ce qu'il faut d'objectivité.
Alors, je vais uniquement avec l'objectivité du joueur. On va s'en tenir strictement au jeu. Donc, en gros, comme tu disais, c'est l'histoire du fameux petit gros panda Po qui désire devenir un super méga kung-fu. Donc, il est un peu lourdeau, bien sûr, mais il arrive quand même à se débrouiller quand même pas si mal avec de la pratique parce qu'il y a différents maîtres qui lui enseignent cette merveilleuse technique qu'est le kung-fu tout au long du jeu. Donc, tout au long de ce jeu-là, il va devoir livrer des combats qui sont parfois quand même assez exigeant, de plus en plus exigeant à mesure qu'il se perfectionne.
Donc, c'est un jeu de combat, essentiellement.
Oui, oui, essentiellement, c'est le kung-fu contre les méchants, finalement. Ben, à travers ça, quand même, il y a certains petits puzzles que tu dois régler de temps en temps. Donc, c'est un peu comme pour chaque niveau, la même chose qui se répète. Tu as le mini-jeu, ensuite le combat, puis tu as le petit puzzle. Puis, bon, finalement, tu ramasses des sous. Il y a des sous spéciaux aussi qui te permettent de débloquer certaines fonctions supplémentaires, certains combos de combat, etc., okay. etc. Donc, il y a quand même un bon niveau de difficulté, là, malgré tout. Certains combats demandent une bonne habileté aux joueurs. D'autres vont demander un petit peu plus de jeu de mémoire parce qu'on va te demander de particulièrement dans une scène dont je me rappelle qui a été pénible pour moi, là, c'est dans l'arène avec le super monstre mécanique qui a plein de bras puis plein de...
Puis ça, c'était pénible. Ça, c'était la partie très pénible.
Moi, je l'ai
trouvé
pénible.
Bras.
Oui,
mais
parce
là, justement, que... Sylvie, tu parles d'un monstre mécanique, mais c'est qui le méchant dans le jeu? Parce que
c'est un gros chat.
Oui, c'est un gros tigre. Je sais, j'ai pas écrit, je ne me rappelle pas de son nom. Taille, oui, en tout cas, quelque chose comme ça.
C'est un autre expert en arts martiaux, ça.
Exact. Là. Mais lui, il est méchant. Très méchant.
Alors que le monstre avec les gros bras, il n'est pas méchant, lui.
Oui, il est méchant, mais lui, il n'est pas un maître, il n'est pas vivant. C'est vraiment. Il est comme en bois, là, en fait. Puis okay. Il tourne sur lui-même.
C'est un outil d'entraînement, finalement.
Il y a plein de. Moi, mais ça te permet de te rendre au titre de. Dragon.
D'acquérir un niveau, finalement.
D'acquérir ouais, le niveau de dragon.
Céleste.
Non, c'est pas céleste, c'est quelque chose dans le genre.
Je trouve que ça sonne bien, dragon céleste.
C'est super beau, surtout, en tout cas. Surtout que j'ai joué la version française. Donc, et même la version anglaise, hein, on n'a pas les voix des acteurs originaux, malheureusement. Donc,
ah oui, c'est vrai, c'est pas Jack Black non, qui fait la voix du panda.
Et non. C'est un jeu PC, hein, donc ça joue clavier-souris, bien sûr, mais. N'essayez jamais cela. N'essayez jamais cela. Après m'être donné encore une fois une doigtette absolument extraordinaire, j'ai switché à la fameuse manette du type console. Parce
on
que
oublie
sinon,
souvent que faire des chroniques pour puissance maximale, ça peut être dangereux. Hein?
Oui, c'est un sport extrême. Mais les graphiques sont quand même bien, hein? Mais c'est un jeu pour les jeunes. Honnêtement, là, ou encore les fans du film, ceux qui ont vu le film et qui veulent continuer à s'amuser là-dedans. Là. Donc, cependant, petit côté négatif, il faut quand même qu'il y en ait, là, c'est un peu répétitif. Comme je disais tout à l'heure, à chacun des niveaux, tu recommences un peu la même série, le même, dans le même ordre là,
oui,
d'exercice.
Oui. C'est les méchants qui changent, machin.
C'est ça, le méchant change, puis bon, tu augmentes un petit peu dans tes possibilités, mais c'est répétitif.
Peux-tu jouer en ligne?
I don't think so. Je pense pas. J'ai pas essayé.
Ah ben, ça doit vraiment pas être bon, alors.
Non, parce qu'il me semble que dans l'installation du jeu, on ne donne pas la fonction multijoueur. Mais bon. Il faudrait que je le regarde.
Mais... Tant pis, on pourra pas jouer donc contre ses amis à très très loin à essayer de s'écraser avec son panda.
Non. Je pense pas.
Parce qu'il y a un combo du panda qui écrase
oui.
ses ennemis
affirmatif,
derrière.
C'est ça, il swing dans les airs, là, puis là, il tombe sur sa bédaine, en fait. Ça fait poum, là, tu peux comme sonner un peu les ennemis à une bonne distance autour de toi. Après ça, ben, tu fais
mais on sent quand même tout l'énervement
mais
par rapport
à partir du moment où c'est un jeu, hein? Bon, je suis partante au départ.
J'imagine, mais... comme tu dis, que c'est on sait que c'est un jeu d'enfant, j'imagine que les couleurs et tout ça, ça doit être assez super beau. Là,
oui,
vraiment,
c'est ça, c'est quand même un bon graphique. Là. C'est rien de comparable. C'est pas le même type de graphique qu'Assassin's Creed ou des choses comme ça, mais c'est quand même très bien fait. Et puis, il y a aussi les contrôles que parfois, il y a un certain problème au niveau de la détection là, avec la manette, c'est-à-dire tu essaies de sauter à gauche, puis il va pas nécessairement à gauche. C'est vraiment un problème au niveau du jeu parce que je l'ai expérimenté, particulièrement dans une salle où il faut que tu battes en vitesse un des maîtres. D'ailleurs, c'est la salle du maître serpent, je m'en rappelle, là, où quand tu tombes en bas, il faut que tu refasses toute la série de feux et de lames qui t'assassinent. En tout cas, j'ai trouvé ça assez pénible parce qu'il sautait pas d'un endroit à l'autre, puis je me retrouvais systématiquement en bas. Puis, bon, le fameux jeu de caméra dans ces jeux-là, qui est toujours un petit peu pénible aussi parce qu'on l'associe à une des roulettes de la manette. Puis là, à chaque fois que tu dois tourner, ben il y a un délai, puis ça te fait perdre un temps fou. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un jeu pour enfants qui sont en général plus patients que moi. Si vous avez des enfants qui sont impatients, ben là, armez-vous de patience.
C'est un jeu auquel tu mettrais combien comme note, à peu près?
Je lui donne un 7 sur 10. C'est quand même pas si mal parce que c'est un jeu qui tient quand même, il est intéressant.
En tout cas, mais bon, après le 2 de Vincent Langlois, là, ouais, on a un 7, c'est quand même bien, on va finir par atteindre 10 à vous deux.
Félicitations.
Mais bon, c'est quand même seulement 20$, alors c'est de l'amusement garanti.
Ah, ben oui. Puis en parlant justement du jeu, bien, devinez quoi, on a le jeu Ninja Panda à faire tirer immédiatement sur les ondes de CKIA. Vous avez juste à téléphoner au 529-9026 et puis n'oubliez pas de faire le 418 parce que ça, c'est sûr que de toute façon, si vous ne faites pas le 418, on va vous le rappeler. Donc, faites le 418-529-9026 et puis bah, n'oubliez pas qu'il faut être membre de CKIA ou avoir la volonté de le devenir un jour. Et puis évidemment, comme à chaque semaine, on va vous demander quel est... Bah, tiens, on va faire poser la question à Sylvie, une petite question quiz pour que vous puissiez vous démener. Mais parce que c'est toi qui es devant moi.
OK, on va la faire facile, hein, parce que moi, je vais le faire gagner. Très le jeu, facile, là, c'est quoi le nom du panda dans le jeu et dans le film?
Je n'ai pas la moindre idée. Est-ce que c'est Pau?
Ben oui.
Okay, vous avez juste à nommer le nom de... Ah ben tiens, voilà.
Bon, OK, tu peux...
Oui, mais il faudrait peut-être l'épeler.
Donc, 418-529-9026, vous avez juste à téléphoner pendant la petite pause musicale que nous allons immédiatement, eh bien, aller rejoindre.
C'est une sélection musicale de Musax, donc musax.info. Yannick, notre collaborateur français, qui a choisi la pièce « The Great Guiana Sisters ». Donc, c'est un jeu qui ressemble à Super Mario Bros. Tellement que Nintendo a intenté des poursuites à Rainbow Arts et finalement, le jeu a été interdit ailleurs qu'en Allemagne. Donc, ça a été repris. Maintenant, la toune par le groupe suédois Machiné Supremacy. Sinon, évidemment, pour le quiz, pour gagner Great Panda Machin Chouette, 529-9026.
Avec le 418.
n'oubliez pas, le jeu doit rester un jeu.
Puissance maximale.
FM.
De retour à Puissance maximale, nous avons maintenant en ligne Martin Bergeron de l'Atelier du loisir. Bonjour. On s'entend très, très mal.
Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien, là?
Oui, un peu mieux, tiens. Donc, l'Atelier du loisir, c'est un terrain, un terrain dans le village de Béthanie, où il y a des activités médiévales qui sont organisées pour les gens à partir de 6 ans. Donc, salut Martin.
Oui, ça va bien?
Ça va très bien. Écoute, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir, est-ce que l'Atelier du loisir a été inspiré par quelque chose d'autre qui s'était déjà fait? Parce qu'on sait que, par exemple, Bicoline ou Yggdrasil fait ça déjà.
Oui, bien, écoutez, là, dans le domaine de ce qu'on appelle du grandeur nature, il y a plusieurs milliers de participants au Québec, là, ce genre d'activité. Donc, c'est certain que ça existe depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, notre inspiration a un peu de ça, mais nous-mêmes, on est là depuis une vingtaine d'années, donc à peu près dans les débuts, là.
Et ça fait depuis 2001 que vous avez un terrain à Béthanie. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un peu, justement, ce terrain-là?
Oui, c'est un très bel emplacement, on est très, très fiers. C'est en Montérégie, donc, comme vous l'avez dit, toute limite là, de la Montérégie, à peu près une heure de Montréal. C'est un terrain, une centaine d'arbres boisés, on a 1,5 km sur le bord de la rivière Noire, on a une trentaine de sites de bâtiments dédiés au Moyen-Âge, une forteresse, auberge médiévale, un village médiéval d'une douzaine de maisons. Donc vraiment, plusieurs infrastructures là pour recréer l'époque.
Et c'est incroyable quand même, en 2008, cette espèce d'engouement là, pour les activités médiévales, là. Il y a eu de plus en plus de mariages médiévaux. On peut parler aussi du Sanctuaire des Braves, là, on a reçu Brian Perrault en entrevue justement qui nous parlait de ça, c'est un autre grandeur nature qui fait dans les activités pour enfants médiévales. Donc, c'est intéressant de voir ça, cet engouement-là, puis même qu'on puisse vivre de ça.
Oui, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs milliers de participants. C'est sûr que les facettes camp de vacances aussi, ça inspire beaucoup les jeunes. Si on parle des films comme Le Seigneur des Anneaux, qui a aussi amené beaucoup de gens à s'intéresser, à s'attarder, disons, à l'œuvre de Tolkien, puis à ce qui en découle.
Moi, j'imagine que les jeunes doivent accrocher à mort. Ça va être incroyable, l'ambiance qu'il doit y avoir là-bas.
Oui, c'est vraiment c'est une expérience entière, là. C'est-à-dire que c'est pour peu qu'on ait un peu d'imagination, on arrive vraiment à s'immerger là, dans l'époque, costumes, décors, musique, ambiance, jeux de rôle, en fait, qui permet de décrocher de notre époque. Là.
Est-ce que tu peux nous faire vivre un petit peu à quoi ça ressemble une journée type que vous offrez aux jeunes?
Oui, mais la journée type commence, effectivement, évidemment, on déjeune, on se prépare, on s'habille, et puis on se déplace sur le terrain. Et là, des animateurs vont donner les premières quêtes. Que ça soit un conquérant adverse, par exemple, qui vient d'arriver sur les lieux, et à ce moment-là, on doit réagir, interagir, discuter, socialiser. Là, c'est vraiment une expérience assez étrange et particulière.
Une question qui me vient comme ça, là, vous faites des activités à partir de 6 ans, mais est-ce qu'il peut y avoir des combats avec les jeunes de 6 ans?
Les jeunes de 6 ans, c'est sûr que c'est une facette qu'on fait moins, donc c'est plus l'interaction, la socialisation, voir des créatures, pour eux, ça les fascine beaucoup. Et puis évidemment, plus on progresse, plus on vieillit, les adolescents, eux, c'est vraiment l'aspect combat avec moi, ça c'est ce qui les motive. Puis pour les adultes, ben là, ça devient peut-être plus le jeu de rôle, l'interaction sociale, la vie au Moyen-Âge qui devient plus intéressant.
Est-ce que vous recevez des familles aussi ou est-ce que c'est vraiment des groupes séparés?
On a vraiment de tout, là, le 24 août, effectivement, on reçoit, c'est spécifiquement dédié aux familles et aux groupes d'amis.
Ça, c'est vous parlez du GN des Écuyers, c'est ça?
Non, c'est ce qu'on appelle une animation de type médiéval, mais on en a une formule qui est faite uniquement pour les familles.
Écoutez, vous avez toutes sortes d'activités là, sur votre site Internet, là, on va le répéter à quelques reprises, gn.qc.ca. Donc, vous offrez plusieurs activités, dont le GN des Écuyers, Gravenswitz 2, l'Assemblée 900, Terroristes. Donc là, c'est toutes sortes d'activités. Puis selon ce que j'ai compris, là, la différence entre ces activités-là, c'est essentiellement justement le groupe cible, donc l'âge des participants et les activités. Par exemple, terroriste, c'est inspiré de Lovecraft. Là, c'est des grandeurs nature là, dans le monde des monstres de Cthulhu. Là.
C'est ce qu'on va faire. Dans ce cas-là, on va jouer plus au centre-ville de Montréal et on le fait déjà. On a peut-être une dizaine d'événements de fait déjà. Et là, c'est vraiment en ville, à notre époque, mais évidemment avec l'univers de Lovecraft, donc avec le meurtre, le mystère, l'intrigue. Un autre genre. Donc, chaque activité a son genre et, comme vous le dites, une clientèle cible.
Dis-moi, parce que là, ça a l'air vraiment très, très gros. Est-ce que vous avez beaucoup d'employés? Est-ce que c'est vraiment une grosse compagnie?
Non, c'est une micro-entreprise, mais on parle quand même d'une douzaine de personnes directement impliquées là, à l'emploi pendant l'été.
Et dis-moi, une activité comme vous la proposez, ça revient à peu près à combien pour une famille ou pour même un jeune qui voudrait aller faire un petit tour chez vous?
Bon, les activités les moins chères, c'est par exemple à 10$ les animations ou 900$ qui est une porte ouverte médiévale. Et nos activités les plus coûteuses, c'est évidemment le camp de vacances qui se déroule sur 3 jours, logement, hébergement, nourriture, tout est fourni. Ça, c'est 180$, taxes incluses.
Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a quelques écoles qui ont répondu présentes et puis qui vous envoient carrément tous les jeunes de l'école?
Ça arrive. On a parfois des classes, l'équivalent des classes de neige, mais d'été, donc des sorties, des écoles qui viennent nous voir. On en reçoit à peu près 6 ou 7 par année. Puis dans la région de Québec, on reçoit même, on a des clients comme Saint-Sacrement, le centre de vacances.
Quand je pense que j'ai gâché toute mon enfance dans des maudits camps de vacances plates,
exact.
J'aurais pu aller là-bas.
Hein? C'est enthousiasmant, c'est sûr que là, c'est vraiment fait pour le plaisir, pour l'amusement, c'est un divertissement un peu pour les gens.
Mais est-ce que vous fournissez tout l'équipement, tous les costumes, les armes, tout ça?
Selon les activités, oui, on peut tout fournir. On dispose de quoi équiper une 60aine de personnes.
OK. Sinon, justement, parlez-nous un peu de l'activité qui s'en vient. Je ne sais pas, ce qui a retenu mon attention, c'est le GN des écuyers, là, donc grandeur nature pour les 9 à 15 ans. C'est quoi vous avez préparé pour cette occasion-là?
Là, c'est notre deuxième semaine. Donc, on a eu un camp la semaine passée. On a donc un nouveau camp cette semaine. Et là, eux, ce sont les écuyers sont face à un envahisseur, un espèce d'adversaire auquel ils doivent trouver toutes sortes de moyens pour se dépatouiller là-dedans. C'est ce qu'ils vont vivre cette semaine encore une fois. Là, donc.
Mais sinon, justement, je veux savoir, moi, c'est qui les adversaires? Est-ce que c'est ça peut être Sauron lui-même? Est-ce que c'est des espèces de gros monstres tentaculaires? C'est quoi?
Non, on essaie d'avoir nos propres concepts originaux, c'est-à-dire on n'emprunte pas ni de nom, ni de concept.
Ah, vous n'avez pas d'orques, de delphes ou des trucs comme ça?
Et c'était vraiment à la toute limite de ce qu'on se permet de faire, effectivement. Donc, on va avoir nos propres races, nos propres monstres, nos propres créatures et nos propres ennemis.
Et quel genre d'activité là, les enfants, ben, les jeunes vont pouvoir faire là, là-dedans? Là, ils font des casse-têtes, ils font ils doivent résoudre des énigmes?
Il peut y avoir des énigmes, ça arrive assez souvent. Évidemment, du combat à l'arme de mousse, ça c'est à la base même, donc entre eux ou contre des créatures. Puis aussi des interactions. Par exemple, un des événements qu'ils ont en soirée, c'est une assemblée où ils doivent choisir entre eux les pouvoirs. Donc c'est une espèce d'équivalent d'un parlement pour les jeunes de quelques heures.
Ça. Wow!
Ben, écoute, à l'intérieur du jeu, c'est ça.
Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Martin Bergeron. C'est tout le temps qu'on a. Donc, si on veut avoir plus d'informations et surtout si on veut y aller à cette GN-là, à ces activités-là, donc je répète, c'est l'Atelier du loisir et le site Internet est le gn.qc.ca. Merci encore, M. Bergeron.
Merci beaucoup. Au revoir.
Ciao, ciao. Donc, on continue.
Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA, c'est le 88.3. On venait juste de converser avec quand même quelque chose qui est très intéressant hein, entre ouais, nous, là, atelier de loisirs, camp de vacances de type GN. C'est quand même sympathique. On aurait tous voulu vivre ça quand on était jeune.
Je pense qu'on va y aller d'ailleurs cet été. Hein, pour
c'est une certitude. On va absolument savoir à quoi ça ressemble. Puis là, évidemment, je me retourne vers notre grand champion des actualités ludiques. Il est dénommé Mathieu Place. Salut Mathieu.
Salut Sébastien.
T'as peur, peux-tu mettre son petit thème?
Oui, allons-y. Bah oui, il l'attend avec impatience. On pourrait même le chantonner ensemble.
Place à la chronique de Mathieu Place.
Eh oui, c'est vraiment la chronique de Mathieu Place. Si quelqu'un en doutait, c'est maintenant, il n'en doute plus. Bonjour
oui,
Mathieu, ça
bien
va bien?
Mon tour. Salut, ça va bien. Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on m'entend bien?
Oui, numéro un.
Parfait. On t'entend très bien.
Écoutez, j'ai des nouvelles très intéressantes à vous communiquer. Premièrement, je ne sais pas si ça avait été fait, si vous avez remarqué ça dans les jeux vidéo récemment, mais Sony a annoncé de manière officielle vendredi dernier qu'ils allaient incorporer dans les jeux vidéo des publicités pour différents produits.
Ah, ouais.
Là, c'est vraiment officiel. Surtout que là, puisque beaucoup de jeux se jouent en ligne, eh bien là, c'est possible de faire des...
De changer les publicités
de
au
changer.
Courant.
Ben,
c'est
voilà,
vraiment génial.
Exactement.
Ben, oui.
Ben, c'est génial dans le fond parce qu'au départ, ce qui était un peu limitatif, c'était d'avoir une
les
publicité
pauvres.
Qui allait rester là pour toujours. Et puis bon, comment est-ce qu'on...
Puis le produit disparaissait, puis là, c'était triste, ils étaient déçus, Coca-Cola pouvait plus...
Ben, c'est ça. Exactement. Alors, il y avait quand même certaines limites un peu bizarres. Mais là, puisque le fait de pouvoir jouer sur Internet permet d'avoir certaines périodes de temps où vous allez avoir vos publicités, eh bien là, ça permet d'avoir un système qui se rapproche des publicités publicité qu'on voit dans les panneaux à l'extérieur.
Mais quel est l'avantage pour le joueur?
L'avantage pour le joueur, c'est d'avoir une PlayStation 3 qui continue à exister. Parce que PlayStation 3 commence à avoir des problèmes avec Sony. Je pense que ça leur a coûté trop cher
en fait,
développement.
Chacune des PlayStation 3 leur coûte 200$ à eux.
À faire, oui, c'est ça. Et puis bon, ils essaient de trouver toutes sortes de moyens pour pouvoir engranger plus d'argent. Et puis bon, dans la dernière année fiscale, eh bien, ils n'ont pas fait de profit avec la PlayStation. Mais bon, Sony a quand même les reins solides, je pense. Alors, ils vont être capables de maintenir la PlayStation 3 en vie, mais c'est un effort pour essayer de faire en sorte que les profits rentrent.
Mais soyons clairs, pour les joueurs, c'est pas forcément la panacée. Bien au contraire, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est désagréable. Ben, déjà qu'on voit de plus en plus de publicité dans les DVD, ça, moi, ça me touche personnellement de voir. Tu sais, t'achètes un DVD ou tu loues un DVD, puis là, t'as une pub pour un char.
Au début du DVD.
Ça, c'est
l'acheter, là, ouais, c'est ça.
C'est-tu assez désagréable?
Mais si vous regardez un jeu qui se passe dans le présent, dans une ville actuelle, etc., eh bien, ça peut ajouter au réalisme d'une certaine manière. Mais il faut pas que ça ait l'air trop collé, là. C'est sûr que quand on regarde un film et puis que là, on voit à chaque fois que le héros boit quelque chose, c'est toujours une canette de Coca-Cola qui tient tout de manière parfaite pour qu'on voit le nom du produit. Bon, ben là, c'est un peu irritant. Mais quand ça fait partie de l'univers du... en tout cas, ça peut être bien fait, là, je pense. Là. Enfin,
espérons-le. Mais qui est-ce qui va s'occuper de ça? C'est Sony principalement ou est-ce que les autres vont embarquer aussi? Est-ce que Nintendo va embarquer?
Je pense que c'est un feu vert qui a été envoyé à tout le monde et puis Sony va partir dans la...
Finalement, ils ouvrent le bal.
Ouais,
et puis,
ça, ils vont ouvrir le bal. D'accord. Et puis, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Mais bon, j'ai l'impression que n'importe quel producteur de jeux vidéo pouvait faire à sa tête au moment où il voulait.
Parce que sinon, les publicités étaient déjà présentes dans certains jeux, entre autres. Moi, je pense à... Il me semble que c'était... Là, j'ai comme un trou de mémoire. Mais c'est les jeux de course en particulier. Gran Turismo, il me semble évidemment, c'est sûr que c'est une pub ambulante, Gran Turismo.
Oui, c'est sûr. Mais quand vous regardez les costumes des coureurs automobiles, eh bien, c'est couvert de publicité. Et puis, vous aviez aussi des jeux qui étaient entièrement des publicités. Hein. Vous aviez le jeu, le Spot, hein, où vous aviez le personnage qui était l'espèce de passé rouge du 7-Up qui se promenait dans différents endroits. Oh, et puis, bon, qui combattait des ennemis. Vous aviez aussi les McKids, mais un jeu avec McDonald's où vous aviez des personnages qui, au lieu de ramasser des scènes, ils ramassaient des burgers de
Big
Mac.
Il faut que tu reviennes avec une chronique là-dessus.
Oui,
c'est sûr.
Ça, c'est vraiment spécial, hein, mais je pense que ça a été sorti sur NES et puis sur Super Nintendo à l'époque. Alors, on pourra en reparler, là, mais c'est ça, c'est un espèce de Mario.
On en reparlera avec plaisir. Est-ce que tu as une deuxième nouvelle?
Deuxième nouvelle. Eh bien, vous allez avoir sur la Wii une nouvelle adaptation que vous allez ajouter au Wiimote, ça va s'appeler le Wii Motion Plus, qui va donner des meilleurs résultats avec le Wiimote. Alors, Nintendo s'est beaucoup habitué, en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est beaucoup habitué à sortir quelque chose, et après, deux ans plus tard, sortir quelque chose, c'est la même chose, mais mieux. On dirait qu'ils sont très pressés de sortir quelque chose sur le marché, et puis après ça, ils prennent le temps de développer le produit comme du monde. Par exemple, vous avez eu le Game Boy Advance. Le premier était vraiment maladroit, c'était une machine un peu bizarre. Puis là, après ça, ils en ont sorti un pas mal plus ergonomique, pas mal plus intéressant. Même chose avec le Nintendo DS qui était sorti. Vous vous souvenez de la première là? C'était une machine un peu étrange. Mm-hmm. Puis là, maintenant, ils en ont sorti une toute belle, là, très, très actuelle.
Il faut quand même qu'il y ait une petite évolution dans le produit, sinon on n'achète pas. Hein?
Ouais, exactement. Ben, c'est sûr. Là, mais bon, on devrait sortir la même chronique à chaque fois. Là. C'est un peu étrange. Dernière chose, vous avez les Beatles qui vont être sur un jeu de Monopoly. Alors, surveillez
ça.
Oh
mon Dieu, yes, enfin. Voilà. Et on l'attendait depuis tellement longtemps. Ça va, enfin, les Beatles sur Monopoly. Merci beaucoup, Mathieu, pour ta chronique, justement, actualité. Puis là, on s'en va immédiatement du côté de Montréal pour aller rejoindre Fraulein Hevel.
Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale.
Et oui, bonjour. Bonjour, Chantal.
Bonjour!
Ça va bien?
Ah, mais oui, ça va super bien!
Oui!
Evil!
Dis-moi, Chantal, comme à chaque mois maintenant, tu nous fais un petit peu le tour de ce qui va bientôt sortir en jeu de société sur le marché. Et qu'est-ce que tu nous annonces cette semaine?
Bon, écoute, dans un premier lieu, on va souligner l'attribution des Spiels de Jerez, comme à chaque année, comme vous savez, le jury des Spiels de Jerez, le jeu de l'année. Ah! En Allemagne, évidemment, ils ont annoncé les gagnants. Cette année, c'est un doublé pour M. Rainer, Kenetia, qui curieusement, malgré le fait qu'il est extrêmement prolifique, n'avait jamais gagné jusqu'à présent.
Ah.
Donc, le Spiel des Jahres pour adultes cette année, c'est Keltis. Essentiellement, c'est un jeu de plateau pour le jeu de cartes Lost Cities, les cités perdues, que tout le monde connaît, qui est un jeu qui a quand même sorti il y a plusieurs années. Et puis, pour les enfants, le Kinderspiel des Jahres. Wes Awards, aussi à Rainer Kenedia. Et c'est dans sa nouvelle gamme de jeux, M. Kinetia s'est lancé dans le jeu électronique. Donc, essentiellement, c'est un jeu d'exploration. Il y a l'enfant va à l'aide d'animaux magiques qui vont lui parler à travers un petit gizmo électronique, réussir à retrouver les gemmes qui lui permettra de découvrir le trésor et de sauver le royaume. C'est un jeu coopératif qui est très, très cute.
Mais dis-moi, Chantal, là, tu es en train de me dire finalement que c'est un véritable blasphème. Il y a de l'électronique dans un jeu de société qui a gagné le Spiel des Jahres.
Oui, c'est un jeu électronique qui a gagné.
Mais c'est un précédent.
C'est une hérésie.
Oui, c'est une hérésie claire.
C'est complètement abasourdisant, n'est-ce pas? Aline Evel en était bobie, mais elle a quand même de belles nouvelles pour Agricola, dont on avait parlé dans les mois précédents, parce que c'est un jeu qui est très, très attendu. Et Agricola, lui, au Spiel des Jahres, a récolté le Sonderpreis Complexes Spiel.
Donc, non, franchement, Chantal, on se lasse pas de t'entendre parler anglais. C'est vraiment incroyable.
Et ça, essentiellement, c'est le prix du jeu. Donc, c'est le jeu avec un niveau plus complexe pour les joueurs expérimentés qui a vraiment ravi le cœur du jury. Et c'est Agricola qui l'a décroché. Alors, Agricola de Uwe Rosenberg, qui est habitué à des jeux plus légers comme Bonanza, par exemple, qui nous pond un jeu comme ça où, en fait, on est un fermier, puis ce qu'on essaie de faire, c'est de faire agrandir sa ferme et d'avoir assez à manger pour être capable de survivre après le fait que toute la population a pratiquement été éradiquée par la peste noire.
Ah,
c'est un super joyeux, c'est vraiment génial. Donc, allez hop, on se lève à l'aube, et on va traire les vaches et on va faire les moissons. Mais c'est vraiment superbe.
Ça donne vraiment le goût, hein, vraiment. Merci beaucoup pour cette précision. C'est Agricola, ça s'appelle comme ça?
Ça s'appelle Agricola et ça va être édité en français par History Games.
Dis-moi juste une question, Chantal. Quand tu vas à Essen pour le grand festival de Essen, comment les Allemands perçoivent ton accent?
Alors, les Allemands m'écoutent parler et trouvent qu'ils se demandent un peu d'où je viens. Et puis, je leur dis, ah, ne vous en faites pas, je suis américaine. Et puis, ils comprennent tout de suite j'ai rien à foutre là, mais que je leur achète plein de jeux.
Dis-moi, à part Agricola, est-ce qu'on s'attend à avoir d'autres merveilles qui vont arriver bientôt sur le marché?
Ben, écoute, deux merveilles qui sont arrivées dans les dernières semaines. On parle de Nefertiti, qui est un jeu qui nous a été amené par la même équipe qui nous avait présenté Utopia et qui nous avait présenté Chronos, qui est quand même superbe. Écoute, Nefertiti nous invite en Égypte à l'époque où les nobles voulaient plaire à Akhéténon. Donc, évidemment, il faut aller récolter des points de prestige pour faire plaisir au pharaon. C'est un jeu qui est très, très rapide. 45 minutes, c'est un jeu d'enchères, c'est un jeu de placement, c'est un jeu de majorité, c'est du 3-4 joueurs. C'est vraiment superbe, qui s'adresse à des joueurs passionnés, mais quand même, la fluidité du jeu fait que ça va se retrouver à être un des bons jeux pour introduire les gens aux jeux de stratégie un petit peu plus poussés. Et ensuite, pour les amateurs d'aventure, on se retrouve avec l'Aube des héros.
Oui.
Première expansion de Oui, Seigneur des Ténèbres.
Et c'est vrai qu'elle était très attendue, hein, cette extension de Oui, Seigneur des Ténèbres. Est-ce que tu peux juste rappeler un petit peu c'est quoi Oui, Seigneur des Ténèbres pour nos auditeurs qui se demandent de quoi on parle?
Seigneur des Ténèbres, alors on joue le rôle d'un gobelin qui travaille pour Rigueur Mortis, le Seigneur des Ténèbres. Sauf que tous les gobelins, qui évidemment jouent en équipe, sont un petit peu losers.
Ils sont tous des incompétents finis.
Ils sont vraiment incompétents et à chaque fois qu'ils partent en mission, ils échouent. Donc retournent et expliquer leur échec au Seigneur des Ténèbres en essayant évidemment de s'éviter le regard qui tue pour rejeter la faute sur leur comparse. Donc, dans l'aube des héros, je devrais dire l'aube des héros. Il y a plus de cartes, donc plus de cartes de créatures, plus de cartes de lieux et plus de cartes d'action qui nous permettent plus de fourberies. Donc, on se retrouve avec des nouvelles actions comme celui qui le dit, celui qui l'est, ou comme dans tes rêves que c'est arrivé, ou... C'est arrivé le dernier, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc, c'est absolument génial. C'est pour ajouter encore plus de fantaisie. C'est encore plus fou. Et ça nous permet d'avoir un jeu un petit peu plus fluide quand on est vraiment beaucoup de joueurs. Parce que ce qu'on constatait avec le jeu de base, c'est qu'on manquait de cartes quand on était vraiment une grosse gang. On rappelle qu'on peut jouer jusqu'à 16 joueurs. Donc, à 16, c'est vraiment superbe pour peu que votre Seigneur des Ténèbres soit efficace.
C'est clair que tout se joue sur le Seigneur des Ténèbres, hein?
Oui, ben en fait, avec un Seigneur des Ténèbres efficace, c'est un jeu qui peut vraiment donner beaucoup de plaisir.
Et merci beaucoup, Chantal. On se revoit dans un mois maintenant, mais je sais que... Est-ce que Jaune-Jaune est dans le coin?
Jaune-Jaune est parti au cinéma. Le Fantasia, ici à Montréal, qui bat son plein, le Festival de films asiatiques. Et Jaune-Jaune est présentement en train de se taper une superbe présentation de Godzilla.
Je suis sûr que les autres auditeurs doivent être vraiment mais terrifiés. Si moindrement il est épeuré et qu'il commence à faire ses petits cris, ça doit être absolument atroce.
Mais Jaune-Jaune est très, très courageux.
D'ailleurs, il y a un article dans le nouveau fanzine Puissance Maximale, le numéro 7, qui vient juste de sortir. Il y a un article sur Jaune-Jaune, hein, il y a quelqu'un qui a attenté à sa vie pendant les Journées ludiques de Québec, là. Donc, il y a un article là-dessus.
Et merci beaucoup, Chantal. Et puis, on se retrouve dans un mois. Et puis, d'ici là, fais attention à Jaune-Jaune.
Il n'y a pas de problème. Je vais le garder comme la prunelle de mes yeux.
Donc, évidemment, on revient. Et puis là, c'est pour clôturer l'émission. Puis, une heure, c'est toujours un petit peu rapide quand on veut parler de jeux et puis qu'on a une émission aussi chargée. Juste pour vous rappeler, bien que cette semaine, c'est Puissance Maximale qui sort. Peut-être qu'on pourrait en dire deux mots juste avant de se quitter.
Oui, donc un numéro sur le spécial de la folie, n'est-ce pas? Parce que dans le jeu, il y a beaucoup de folie, beaucoup de démence. Alors, c'est un spécial folie. On parle de jeu qui se rapproche de la démence.
Puissance Maximale que vous allez pouvoir évidemment retrouver dans tous les bons jeux, dans tous les bons magasins de jeux qui sont à travers la province. Et puis, n'hésitez pas à aller chercher et même aller évidemment sur le site de Puissance Maximale, www.puissancemaximale.com.
C'est même possible de s'abonner au fanzine maintenant.
Tout à fait. On n'arrête pas le progrès. Puis l'évolution du fanzine est extraordinaire. D'ici là, on va vous souhaiter évidemment une très bonne semaine. On va vous souhaiter une semaine de jeu parce que c'est ça qu'on souhaite chaque semaine. Et puis, on ne peut pas quitter l'émission sans évidemment laisser le micro à Vincent Langlois pour donner le dernier mot de l'émission.
Alors, bonne semaine.
Ciao, ciao. Never kissed a lady before.
Nope. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.
And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school.
No, we're not.
I know.
Now Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend.
And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end.
Whoa, 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 whoa. You got a girlfriend?
Yeah. Yeah.
It's D&D, warriors who terrify. It's D&D.